Chapitre 2. Los Angeles déroulait son tapis urbain interminable jusqu'à l'océan, seulement barré au nord par les épaules voûtées des montagnes et vallées tortueuses dont Griffiths Park formait l'extrémité est. Un vaste territoire sauvage en terre humaine. Pentes abruptes, végétation sèche mais abondante, lacis de chemins poussiéreux pour randonneurs motivés. Quelques sommets offraient une vue parfaite sur la cité et son horizon flouté de pollution. Le cabriolet d'Atticus Gore quitta l'autoroute 5 pour s'élancer sur un tremplin de longues artères désertes, jalonnées de chênes, palmiers et sycomores, et en quelques centaines de mètres, il fut perdu pour la civilisation. Ne conservant que le cordon ombilical de la rumeur du trafic sur la Golden State Freeway, qu'il effaça en poussant la musique plus fort. Un massif de fleurs roses l'accueillit près du bâtiment des Rangers du parc. La montagne sur sa gauche, des aires de promenade tout autour de lui. Et il ralentit pour chercher sa route. L'endroit était calme, très peu fréquenté. Et Atticus supposa que ça n'avait rien d'étonnant un vendredi à 8h15. Il avisa un panneau. Merry Go Round. Le célèbre carrousel. Et se souvint qu'il devait poursuivre jusqu'à la prochaine intersection. Il roulait lentement, scrutant le paysage autant pour se repérer que pour s'imprégner de cet endroit où il ne venait pas souvent, et se promit de l'ajouter à la déjà longue liste de choses à faire, au sommet de laquelle trônait l'éternel « être un homme meilleur ». À cette vitesse, il en profita pour respirer à plein poumon le parfum des fleurs de ce début de printemps. Sucré, légèrement piquant, une note boisée, une autre cuivrée. Les odeurs qui vont suivre seront bien différentes. Après avoir longé des pelouses émeraudes constellées de jeux pour enfants, les bosquets réinvestirent l'espace. La nature se fit de plus en plus envahissante jusqu'à déborder sur la chaussée et Atticus reconnut le parking en terre au bout d'un cul-de-sac. La présence d'une demi-douzaine de véhicules de police ainsi qu'un flic en uniforme à l'entrée ne laissait planer aucun doute. Les guitares saturées et la batterie frénétique d'un morceau de Slayer, qui rugissait par les haut-parleurs de la mini décapotée, firent ôter ses lunettes de soleil à l'officier en faction, et Atticus brandit son badge sans prendre la peine de ralentir, avant de se garer le plus près possible du sentier, fermé par un gros ruban jaune et noir caractéristique. La camionnette de la SID, la police scientifique, était déjà là. La musique disparut avec le ronronnement des quatre cylindres. Atticus s'étira en grimaçant, réajusta sa chemise en jean et ferma les yeux pour inspirer profondément. Il recalibrait ses sens, comme il aimait à le penser. Il se préparait mentalement à ce qui suivrait. À partir de maintenant, il allait tout enregistrer, tout analyser, tout envisager. Il devait se débarrasser d'une part de lui-même, la plus fragile, la plus intime, la plus perturbante, pour laisser place à l'inspecteur. Une forme presque puérile de mise en condition, il le reconnaissait, digne d'une mauvaise série télé, mais il en avait besoin. Son rituel à lui. Il rouvrit les yeux pour faire un tour complet sur lui-même, prendre possession de son environnement. Hack, son partenaire, détestait lorsqu'il faisait cela. Puis il déverrouilla son coffre pour tomber sur son sac de sport et celui en toile qui ne quittait jamais sa voiture. Ce dernier contenait une trousse de toilette et quelques vêtements propres, juste au cas où. Il ne l'avait même pas utilisé cette nuit, aspiré par l'obsession des pulsions puis repoussé par l'urgence de fuir à l'aube, comme d'hab. Il chassa cette idée dérangeante et fouilla pour saisir les poignets de la grosse masse noire tout au fond. Son warbag, comme on l'appelait dans le jargon. Celui-là non plus ne le quittait jamais, mais au moins il en faisait bon usage. À l'intérieur, il s'empara de gants en latex blanc et glissa dans ses poches de pantalon quelques sachets en plastique et petites enveloppes jaunes. On ne sait jamais. Puis il abandonna ses lunettes de soleil dans le coffre. Il voulait voir sans filtre, ne pas altérer ses sens. C'était important. Voir comme le tueur avait vu. Souffrir comme la victime. Une pente douce embarquait vers un promontoire boisé duquel descendaient quelques voix. Atticus souffla et s'y rendit avant d'atteindre un second cordon de sécurité gardé par un autre officier en uniforme. Celui-ci tenait le journal de bord de la scène de crime. la plus belle invention des autorités policières en un siècle de progrès. Depuis son apparition, fini les hordes de curieux, qu'ils soient politiques ou parmi les huiles du LAPD. Les scènes de crime étaient redevenues des sanctuaires relativement préservés. Toute personne qui posait un pied au-delà du cordon devait signer le journal de bord à son arrivée et à son départ, en déclinant identité et raison de sa présence. Et n'importe qui sur ce journal pouvait par la suite être appelé à témoigner à la barre lors d'un éventuel procès. Qui que ce soit, jeté en pâture sous les projecteurs du serment et passé sur le grill des questions d'une défense acharnée ou d'un procureur belliqueux. Cela avait fait un ménage considérable. Atticus s'acquitta des formalités et pénétra dans le cœur de la machine. L'ancien zoo de Griffiths Park avait fermé dans les années 1960, laissant derrière lui des files de cages rouillées enchâssées dans la roche au pied d'une petite montagne. Elles formaient un serpentin sale, entouré de végétation, oublié des regards. La municipalité avait essayé en vain de leur redonner un semblant de dignité en aménageant une vaste zone de pique-nique où se dressaient quelques tables sur le rond d'herbe tondue qui servait de point central au site. Mais le lieu était reculé, peu connu, et il y flottait une atmosphère étrange. Certains n'hésitaient pas à prétendre que les spectres des animaux qui s'y étaient succédés demeuraient prisonniers de ces barres devenues marrons comme maculés d'un vieux sang poisseux. Plusieurs flics sondaient le sol, éparpillés sur la zone à la recherche d'indices. Un petit noyau se concentrait à l'extrémité nord de la pelouse, au pied d'une courte falaise constituée de blocs rocheux, comme empilés distraitement jusqu'à former un paysage de bunkers semi-naturels, desservis par un réseau de galeries qui servait autrefois aux fauves à s'abriter des chaleurs excessives de la région. À mesure qu'Atticus s'en approchait, il reconnut plusieurs techniciens de la SID en train de photographier, disposer des marqueurs numérotés ou prendre des notes. En retrait, supervisant les opérations, un grand type très maigre, hérissé d'une brosse blanche et affublé d'une moustache taillée au cordeau, discutait avec une petite rousse au carré strict, avec un peu d'embonpoint et beaucoup de taches de rousseur. Costume et tailleur réglementaire d'inspecteur des homicides au poste d'Hollywood Station. James Ottington et Marcia Velasquez. Atticus les salua brièvement avant de se rendre au plus près de l'enclos, qui n'était séparé de l'esplanade que par un minuscule muret facile à enjamber. Aucun grillage n'empêchait d'y pénétrer. Toute protection avait disparu depuis qu'il n'avait plus servi à exposer des fauves.
« Je ne savais même pas que Griffiths Park était sur notre secteur », déclara Atticus de sa voix grave.
« Le prochain mort au fond d'un ravin, ce sera pour toi », répliqua Ottington. « Crois-moi, là, tu t'en souviendras. »
Des flashs crépitaient à l'intérieur des tunnels dans la structure au-delà de l'enclos, et Atticus commença à imaginer le pire.
« Vous me briefez ? Tu prends la relève ?»
demanda Ottington.
« C'est une pochette surprise. Impossible de savoir ce qu'il y a dedans tant que je n'ai pas accepté. »« On te fait un cadeau, Gore, » ajouta le grand moustachu au regard d'un bleu glacial.
« Tu parles. » S'il y avait bien un collègue en qui Atticus n'avait pas confiance, c'était lui. Archaïque, sexiste, homophobe, manipulateur et égoïste. Sa femme devait être une sainte pour le supporter, ou pire que lui, un authentique démon de l'enfer. Marcia enchaîna son calepin à la main.
Corps retrouvé ce matin par un jogger, le grand classique. Son chien s'est barré et refusait de revenir. Il est allé le chercher et a vu le cadavre et nous a appelés aussitôt. La voiture de patrouille a demandé un superviseur dès qu'ils ont confirmé la présence d'un mort, et nous avons été envoyés sur place.
« À quelle heure ?» demanda Atticus par habitude. Il n'était pas du tout sûr de vouloir de l'affaire. Il n'avait pas besoin d'un bourbier de plus, mais sa curiosité prenait le dessus. Marcia jeta un regard sur ses notes.
« Le mec a appelé à 6h15. Le dispatch nous a envoyé ici une demi-heure plus tard. L'armada a débarqué il y a 20 minutes. »«
Légiste ?» La quadra désigna l'enclos du menton. Et les rideaux roux de part et d'autre de son visage dansèrent comme l'eau d'un bain agité. C'est quoi le piège ?
Comme je t'ai dit, Jay et moi on est débordés. Pas le moment de se rajouter ce... Faut que tu le vois, Gore. Celui-là est... spécial. Et il est pour toi. Dans tes cordes.
Atticus fronça les sourcils. Il ne voyait pas bien ce qui était dans ses cordes, justement.
Il n'avait pas la réputation d'être un excellent limier, encore moins ces derniers temps. Une vague idée commença à se faire un chemin. Elle tarda à se clarifier parce qu'elle provenait de la part intime qu'il s'efforçait de repousser sur une scène de crime. Et ce qu'il en devinait ne lui plaisait pas. Un crime de PD. C'était tellement idiot et insultant qu'il préféra l'oublier.
« Vanessa veut se marier à Palm Springs », confia Huntington sur un ton géniard. « Je dois me coltiner de tout valider, les allers-retours sur place pour vérifier les salles, le traiteur. Je deviens dingue. Et on est déjà surchargé de boulot, à croire que tous les tarés d'Hollywood se refilent le mot pour passer à l'acte lorsque je suis de service. Gore, celui-là, il est pour toi. Il t'appelle. »
Marcia insista. « Le lieutenant sera d'accord. Répartition des tâches de travail. Tu n'as rien de frais en ce moment. » Le quotidien des inspecteurs au département des homicides était fait de périodes intenses qui duraient généralement une semaine lorsqu'ils débarquaient sur un crime. Puis de longues sessions de paperasse, de vérification ou de relecture lorsqu'il s'agissait de reprendre des affaires qui n'avaient pas été bouclées afin de préparer leurs témoignages en vue d'un procès ou d'assister des collègues débordés. Mais la majeure partie des crimes se résolvait en 2 à 3 jours. Au-delà, les chances d'y parvenir s'étiolaient quasiment d'heure en heure, et le rush de l'inspecteur retombait pour reprendre une activité monotone avec des horaires de bureau. Atticus n'avait en effet rien sur le feu, sinon d'anciens dossiers qu'il secouait de temps en temps pour voir si rien ne remontait des sédiments du temps. Des cas pourris. Et il lui restait sur les bras 2 crimes irrésolus, ça en faisait 5 sur ses 10 dernières investigations. Fiasco sur fiasco. Il avait besoin de reprendre confiance, de redorer son blason vis-à-vis des patrons, et surtout de ses collègues, avant que son image, déjà passablement bancale, n'en soit irrémédiablement entachée. Le loser. Mauvais flic. Atticus ne pouvait se permettre d'embrayer sur ce cadavre qui ne lui revenait pas de droit s'il s'agissait d'un marécage inextricable. « Pourquoi moi ?» insista-t-il méfiant. « Irzik et D'Angelo sont plutôt au calme aussi ces derniers temps. » Huntington lui donna une tape amicale sur l'épaule.
« C'est tout ce que t'aimes. Tu remercieras Marcia. C'est son idée. »
« La victime est identifiée. »
« Le légiste pense que c'est un homme. Il est à son chevet en ce moment pour le fouiller. »«
Pense ?» répéta Atticus. « Il est dans quel état ?» Le grand moustachu et la petite rouquine échangèrent un regard entendu, et Marcia leva l'index vers les 3 ouvertures au milieu des blocs de roche.
« Va jeter un œil, Gore. » insista Marcia. « Il y a des trucs qui sont difficiles à raconter. »
Cette fois, la curiosité fut la plus forte. Atticus secoua la tête, dépité et agacé par les mystères que ces deux-là lui faisaient, et il prit la direction de l'enclos. Huntington le siffla.
« Prends ça, tu vas en avoir besoin, »
dit-il en lui lançant une petite lampe torche.
« Et surtout, regarde où tu marches. »
L'œil brillant, il dévoila ses petites dents grises dans un sourire qui n'avait rien d'amical.